Vous écoutez, on lit pour vous.
Gaza écrit Gaza, des histoires du passé pour saisir le présent. Un texte de Magdalene Boutros paru le 2 juin 2025 dans Le Devoir. Dans Gaza écrit Gaza, 15 jeunes Palestiniens racontent leur attachement à la terre, leur résilience et leurs espoirs, mais aussi la destruction de leur maison, les corps ensevelis sous les décombres et le profond sentiment d'injustice qui les transperce jour après jour. Des récits qui auraient pu avoir été rédigés dans la dernière année et demie. Et pourtant, ils ont été écrits dans la foulée de l'opération Plomb durci lancée par l'armée israélienne à la fin de 2008. C'est ça la puissance de ces textes. Il nous rappelle que nous ne sommes pas face à un moment ponctuel ou exceptionnel, que l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre 2023, souligne Yara El Gadban, autrice montréalaise d'origine palestinienne, ayant dirigé la traduction de Gaza écrit Gaza chez Mémoire d'Encrier. Publié initialement 5 ans après la fin de l'opération Plomb durci, qui a fait plus de 1 400 morts et quelques 5 000 blessés du 27 décembre 2008 au 18 janvier 2009, Gaza écrit Gaza rassemble 23 récits de fiction rédigés par 15 jeunes, guidés par le poète palestinien et professeur de littérature Rifat Al-Ariya. C'était un exercice de catharsis littéraire, résume Yara El Gadban. L'auteur du célèbre poème « If I Must Die » voulait offrir un porte-voix à ces jeunes Gazaouis vivant sous blocus israélien depuis 2007 et qui se tournaient généralement vers les réseaux sociaux pour raconter leur vie et leur colère. Il les a rassemblés en leur disant « Vous pouvez faire plus que ça. Vous pouvez transformer vos expériences en de véritables récits littéraires. » Avec la fiction, vous pouvez dépasser votre réalité et vos contraintes et rejoindre l'humanité par un niveau plus élevé que la simple dénonciation. Il croyait vraiment à l'universalité de l'acte littéraire, du geste littéraire. Rifat Al-Ariya, tué, avec plusieurs membres de sa famille, le 6 décembre 2023 par une frappe israélienne, avait aussi fait le pari de demander à ses jeunes protégés, dont plusieurs étaient ses étudiants, d'écrire leurs textes directement en anglais pour rejoindre un plus large auditoire. Un livre de solidarité pour prolonger l'héritage de l'homme de 44 ans, une édition commémorative de ce livre-testament, intitulé en anglais « Gaza Writes Back », a été publié en 2024. La maison d'édition Just World Books s'est du même souffle tournée vers Mémoire d'Encrier pour assurer la traduction et la publication en français de l'ouvrage. Mon réflexe au départ, comme palestinienne, a été de vouloir le faire moi-même, comme si j'avais une dette, une responsabilité, raconte Yara El Gadban. Mais René Saint-Éloi, fondateur de Mémoire d'Encrier, m'a dit « Non, ce n'est pas à toi de le faire seul. Ce qui se passe en Palestine ne concerne pas que les Palestiniens. Ça concerne toute l'humanité et il faut que ce soit un livre de solidarité. » Une invitation a ainsi été lancée à une trentaine d'écrivaines et écrivains de la francophonie, parmi lesquels se trouvent Joséphine Bacon, Kev Lambert, et Anaïs Barbeau-Lavalette pour traduire ses récits. La réponse a été incroyable. À l'intérieur de 15 minutes, nous avions presque trouvé tous nos traducteurs. Séjour en Palestine. L'autrice est aussi naturellement tournée vers le dramaturge acadien Gabriel Robichaud, qu'elle avait préalablement invité à participer à des rendez-vous littéraires en Palestine au sein d'une délégation d'écrivains canadiens. Il y a exactement 2 ans, on était à Ramallah, se souvient-il. Un périple qui les avait aussi menés à Nazareth, Bethléem, Jérusalem et Jéricho. ça a été une semaine qui a vraiment été marquante à bien des égards, où j'ai appris et désappris beaucoup de choses, mentionne celui qui est également poète et comédien. Au fil des rencontres, Gabriel Robichaud s'est pris à raconter l'histoire des Acadiens, marquée par la déportation de 1755. Il y a un auteur à Nazareth qui m'a dit « Es-tu palestinien ?» Ça me remue encore d'en parler aujourd'hui. « Je n'aurais pas fait ce parallèle-là », dit-il en ajoutant qu'il demeure néanmoins troublé par cette reconnaissance et par certaines similitudes entre l'histoire des deux peuples. Participer à « Gaza écrit Gaza » s'inscrit en continuité avec ce voyage. C'est poser un geste politique, c'est poser un geste d'appui, clame-t-il. Le dramaturge a mis des mots en français sur ceux de Rawan Yagi, qui avait 20 ans au moment d'écrire « Enseveli ». Un court récit dans lequel une jeune fille blessée sous des décombres comprend que personne ne viendra la secourir. Il y a 10 ans passés, c'était possible d'écrire ça, parce qu'écrire, ça répondait à une réalité bien vivante, à un imaginaire très clair, souligne Gabriel Robichaud. Or, combien de fois ce récit s'est-il raconté depuis? Se questionne-t-il. Récit de fiction. Une continuité troublante entre le passé et le présent qui est tout aussi perceptible dans leur maison, signé par Rifat Alarir, dans lequel un homme veut détruire la maison d'où il a été chassé. Est-ce que je dois laisser les colons juifs s'emparer de ma maison et vivre avec cette réalité toute ma vie? Non, je ne le peux pas. Ou encore ce dilemme cornélien auquel fait face un médecin qui doit choisir entre sauver un homme blessé ou un bébé mourant dans « De grâce, tir mortel uniquement » de Johan Alfara. Ces récits, par l'entremise de la fiction, permettent d'aller au-delà du témoignage, pointe Yara El-Gadban. Comme dans « Insomnie », dans lequel l'autrice Nour El-Borno nous fait entrer dans la tête et surtout dans les cauchemars d'un soldat israélien sommé de tirer pour tuer. Malgré le temps qui passe, ces textes ne seront jamais anachroniques, croit Yara El-Gadban, puisqu'ils portent en eux deux histoires. D'abord, celle de ces jeunes Palestiniens qui racontent leur Gaza, puis celle de l'amour qu'ils portent à leurs professeurs les ayant initiés au pouvoir de la littérature et à la force des mots. Il suffit de lire, à la fin du livre, les témoignages laissés par les étudiants à leurs professeurs décédés pour saisir à quel point cet homme, qui incarnait l'âme d'un peuple, a été déterminant dans leur vie. Et ça, c'est la plus belle des deux histoires, souffle Yara El-Gadban. C'était « Gaza écrit Gaza, des histoires du passé pour saisir le présent », un texte de Magdalene Boutros, paru le 2 juin 2025 dans Le Devoir.
L'Empathie, une chronique de Julie Vaillancourt, parue le 22 juin 2025 dans le magazine Fugue. L'empathie, cette capacité à se représenter ce que l'autre ressent, en possédez-vous? En recevez-vous? La convoitez-vous? Petite chronique sur l'empathie. Pourquoi un papier sur l'empathie dans une chronique lesbienne? Parce que je me demande à quel point Monsieur et Madame Tout-le-Monde possèdent cette capacité à se mettre dans la peau de l'autre, surtout lorsque cette personne est marginalisée par rapport à la norme au groupe social dominant. Qui plus est, les lesbiennes font rarement l'objet d'empathie. Elles sont l'objet de curiosités, de fantasmes, de méconnaissances, de moqueries, de désintérêt, d'invisibilité, d'indifférence, de haine, de mépris, mais rarement d'empathie. Probablement parce qu'on ne les ramène toujours qu'à leur orientation sexuelle, par surcroît leur sexualité, alors qu'elles sont bien plus que ça. Vous me direz que c'est la même chose avec une personne handicapée ou une personne atteinte de troubles de santé mentale. Certes, rares sont les gens qui n'ont pas d'empathie pour ces personnes. Pour expliquer mon point, j'avais envie de revenir sur l'excellente série Empathie, dont la saison 1 est désormais disponible sur Crave. Ce drame psychologique, réalisé par Guillaume Lonergan et signé Florence Lompré, récipiendaire du très mérité prix Série Mania à Lille, en France, lève le voile sur le trouble mental par le biais d'une psychiatre, Suzanne, Florence Lompré, qui travaille à l'Institut carcéral Mont-Royal. Sans dévoiler toute l'intrigue, on apprend rapidement que Suzanne a récemment perdu sa conjointe, enceinte de leur premier enfant, dans un accident tragique. Alors qu'elle dévoile ce pan tragique de sa vie, qui l'a menée à une tentative de suicide puis à sombrer dans l'alcool, à son collègue Mortimer, ce dernier l'écoute puis scande. « Oh, tu es lesbienne ?» Et Suzanne de rétorquer, « C'est vraiment tout ce que tu as retenu de ce que je viens de te dire ?» Quel bel exemple ici d'un manque d'empathie au profit de la curiosité lesbienne. Alors que Suzanne dévoile avec difficulté le fait qu'elle a été témoin d'un événement traumatisant, son collègue ne retient qu'une chose, elle est lesbienne. Bien sûr, nous avons ici affaire à une fiction qui, soit dit en passant, est extrêmement bien faite, parmi les meilleures séries québécoises que j'ai vues depuis des années, avec un scénario bien ficelé, un personnage lesbien loin des clichés et, bien sûr, beaucoup d'empathie révélée par des interprétations remarquables. Mais que nous dit cette scène d'empathie? Que les lesbiennes en génèrent peu, au profit de la curiosité que suscite leur orientation sexuelle. J'ai tellement ri lors de cette scène, d'anthologie selon moi, car j'ai pu m'y identifier. J'ai ri jaune, puisque des situations similaires me sont déjà arrivées. Si vous êtes lesbienne et lisez cette chronique, probablement que vous avez déjà également vécu une situation de ce genre. Vous savez, ce moment où votre interlocuteur ne fait que penser à votre condition lesbienne, votre orientation sexuelle, sans aucune empathie. Et parfois, ce n'est même pas un manque d'empathie, mais de la méconnaissance, de la désinformation, ou même de l'indifférence. Je me souviens, il y a plus d'une décennie, autour d'une table, il y avait une discussion à propos des enfants, de la maternité. Un homme hétéro s'était retourné vers moi, à la blague, en me disant quelque chose du genre « Toi, ça ne te concerne pas, cette conversation. » « Vraiment? J'ai encore un utérus, à ce que je sache, » avais-je rétorqué au grand malaise de ce dernier. Cette intervention découlait, jusqu'à un certain point, d'un manque d'empathie. Que ressent une lesbienne dans une conversation sur la maternité? Il y a plus d'une décennie. Rien, car elle ne peut pas avoir d'enfant, selon un homme hétéro qui, à l'époque du moins, était probablement désinformé ou aveuglé par mon orientation sexuelle et n'avait pas la capacité à se représenter ce que l'autre ressent. Non seulement j'ai un utérus et je peux adopter, mais j'ai aussi une opinion sur la conversation. N'est-ce pas quelque peu réducteur, comme si l'orientation sexuelle primait sur le sentiment, le ressenti, le fait même d'exprimer son opinion? Cela dit, je ne blâme personne. Pour avoir un réel sens de l'empathie, cette capacité de se mettre intuitivement à la place de son prochain, de ressentir la même chose que lui, de s'identifier à lui, il faut beaucoup d'humilité, de vulnérabilité, d'écoute et d'altruisme dans une société qui, malheureusement, ne valorise pas ces qualités. Comment avoir une compassion profonde pour autrui dans une société si individualiste? C'est triste, mais cette individualité va de pair, notamment, avec les réseaux sociaux qui entraînent les gens à consommer de la mésinformation ou à en créer pour avoir de l'attention, de l'empathie même, à s'exhiber pour être aimé. Lorsque vous voyez quelqu'un qui se plaint sur les réseaux sociaux, êtes-vous empathique? Écrivez-vous personnellement à cette personne avec compassion ou vous continuez à scroller? Lorsque vous voyez quelqu'un réussir, êtes-vous empathique, content pour la personne ou envieux de son statut? Peut-être êtes-vous davantage indifférent, insensible. Si c'est le cas, vous êtes à l'opposé du spectre de l'empathie où trône l'égoïsme. J'ose croire que nous avons tous déjà été dans les deux spectres. L'important est de ne pas s'y perdre, de ne pas oublier que l'amour de soi, des autres, passe par une gamme d'émotions et que demeurer authentique, à l'écoute de ses émotions et de celles des autres, renforce l'empathie et notre capacité à évoluer vers un monde meilleur. À la question « Comment développer son empathie ?», j'avais beaucoup aimé la réponse de la créatrice d'empathie, Florence Lompré, à « Tout le monde en parle ». Juste le fait de consommer de la fiction, c'est un geste empathique. De vivre des émotions avec quelqu'un d'autre, qu'il soit réel ou non, de pleurer pour quelqu'un d'autre, de rire avec quelqu'un d'autre, de comprendre l'autre, de s'intéresser à l'art, de vivre des émotions grâce à l'art, c'est déjà un geste empathique. Juste en faisant ça, on a gagné. Puis, évidemment, d'essayer de comprendre l'expérience de notre voisin, par exemple. C'est quoi sa réalité? Comment il pense? C'est quoi ses enjeux? Ça peut juste être bénéfique, tant pour la personne qui éprouve de l'empathie que pour la personne qui en reçoit, car on dégage plein de sérotonine quand on vit de l'empathie. La série Empathie est disponible en totalité sur Crave. Une seconde saison est en production. C'était « L'empathie », une chronique de Julie Vaillancourt, parue le 22 juin 2025 dans le magazine Fugue.
Une saison estivale américaine frappée par le rejet de Donald Trump. Un texte de Fabien Deglise, paru le 7 juin 2025 dans Le Devoir. Quand elle y pense, Deborah Lee, gérante d'une librairie d'occasion spécialisée dans les livres rares située à Détroit, peine encore à croire que la détérioration de l'amitié Canada-États-Unis soit devenue réalité de manière aussi fulgurante. Pour elle, cette trajectoire, induite par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, aurait dû rester dans le champ de la fiction dystopique qui plus est. Je n'aurais jamais pensé que cela se produirait un jour, dit-elle au milieu d'étagères croulant sous le poids de vieux bouquins. Pendant la pandémie, on avait senti l'animosité de Donald Trump à l'égard du Canada. Mais ce n'était pas aussi menaçant. Nos destins, canadiens et américains, sont pourtant liés depuis toujours. Et là, on les voit s'éloigner pour la première fois, et c'est bien triste. Triste, décevant, inquiétant, affligeant. À Détroit, les qualificatifs ne manquent pas depuis quelques semaines pour décrire une tension facilement perceptible dans cette ville du Michigan, qui ne fait pourtant qu'une avec sa voisine canadienne, Windsor, en Ontario. Une rivière les séparait géographiquement. Des ponts et un tunnel les ont unis historiquement. Et à l'approche de la saison touristique estivale, la peur s'intensifie dans cette métropole des Grands Lacs, où la rupture, alimentée par le ton menaçant du président américain à l'égard des Canadiens, par le renforcement cette semaine de ses tarifs douaniers sur l'aluminium et l'acier, et par ses commentaires obsessifs sur une annexion de son voisin du Nord, risque de faire perdre bien plus qu'une simple amitié. On constate une diminution du nombre de voyageurs venant du Canada depuis le début de l'année. Laisse tomber Jeremy Howe, gérant de l'hôtel Trumbull & Porter, un établissement qui a pignon sur rue dans le quartier en phase de rajeunissement de Corktown, à l'ouest du centre-ville. La proportion est encore difficile à cerner, mais nous recevons de plus en plus d'annulations et nous nous retrouvons souvent face à des Canadiens qui, derrière le comptoir, disent être venus moins nombreux que prévu pour assister à un concert ou à une rencontre sportive parce qu'une partie de leur famille ou un ami a décidé de ne pas venir en raison du nouveau contexte politique ici. Un rejet quantifiable. L'anecdote repose désormais sur des chiffres mis en lumière il y a quelques jours par l'Institut de recherche Longwoods International, spécialiste nord-américain en tourisme. 60% des Canadiens disent éviter de voyager aux États-Unis en raison du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Dans la foulée, plus du tiers, 36%, des Canadiens qui prévoyaient s'y rendre dans le courant de la prochaine année, ont décidé de mettre leur plan au rencard, préférant désormais, à 40%, prendre des vacances à l'intérieur du Canada et à 27%, au Mexique ou en Europe, selon le coup de sonde lancé par la firme dans un bassin de 1000 répondants il y a quelques semaines. En avril 2025, les voyages en voiture des Canadiens avait chuté de 35,2% par rapport à la même période, un an plus tôt. Une quatrième baisse de suite en 4 mois, selon Statistique Canada. En mars 2025, cette baisse était déjà de 31,4%. Les déplacements par avion des Canadiens entre les deux pays ont également connu un recul de 20% en avril 2025, une tendance à la baisse qui se maintient dans les aéroports depuis février et l'instauration du nouveau régime républicain à Washington. Il n'y avait déjà pas beaucoup de touristes à Détroit. Il va être dommage d'en voir passer encore moins, déplore Shane O'Keefe, propriétaire d'un magasin de vélos dans un ancien quartier industriel en cours de réhabilitation. Le jeune homme, dont la clientèle vient principalement de Windsor, assure-t-il, dit avoir été pris par surprise par une tendance qu'il n'aurait jamais cru envisageable. Tout s'est passé tellement vite, c'est comme si la bonne cohabitation entre nos deux pays avait pris fin soudainement, en une nuit à peine, et tout le monde ici trouve ça profondément regrettable. C'est le cas de l'agence de développement touristique de la ville, Visit Detroit, qui évoque désormais des obstacles inutiles, impactant à la fois le tourisme et le commerce, et ce, en raison des politiques radicales imposées par le nouveau président dès son entrée en poste. Un climat avec lequel l'industrie du tourisme de la ville doit désormais composer, mais qu'elle doit surtout combattre. Maintenir une relation solide et coopérative est essentiel à la vitalité économique et culturelle de notre région, résume en entrevue Brett McWithy, directeur des communications de l'organisme. Il dit toutefois avoir confiance en l'avenir, affirmant que Détroit et le Canada sont résolument tournés vers l'avenir et l'inauguration prévue cet automne du nouveau lien routier, le pont international Gordie Howe, reliant les deux villes et les deux pays. Il va nous placer devant une promesse de croissance continue, malgré les tensions politiques, dit-il. Attendre pour voir. Dans son hôtel de Corktown, Jeremy Howe, lui, attend de voir comment les choses vont évoluer, en restant toutefois un peu plus prudent. Le temps peut finir par apaiser les tensions, bien sûr, mais je ne m'attends pas à un changement d'ici le début de l'été, ni même pour les mois suivants, car Donald Trump va encore être le président, et il ne semble pas vouloir changer de ton et de discours à l'endroit du Canada. Début juin 2025, le populiste a réitéré une énième fois son appel à faire du Canada le 51e État de son pays en prétendant que cette annexion viendrait effacer la facture de 61 milliards de dollars que les Canadiens devraient payer pour prendre part à un nouveau plan de défense commune des deux pays, son dôme doré, comme il l'a baptisé. Des propos belliqueux qui, pour le moment, risquent surtout d'effacer chez lui des recettes attendues durant la saison estivale. C'est que, selon le World Travel and Tourism Council, les États-Unis pourraient en effet voir leur revenu de tourisme baisser de 22,5% en 2025, comparativement au sommet de 217,4 milliards de dollars enregistrés en 2019, indique sa dernière étude d'impact économique. Le climat de terreur imposé par le gouvernement Trump aux ressortissants étrangers et à ses alliés commerciaux et, surtout, les apparences de dérive autoritaire exposées par son régime depuis plus de 4 mois expliquent en grande partie ce recul. Et la part des Canadiens dans cette économie du tourisme n'est pas à négliger. En 2024, ils ont dépensé plus de 20,5 milliards de dollars dans les hôtels, les restaurants, les commerces et les autres entreprises des États-Unis, ce qui en fait, avec plus de 20 millions de visiteurs, la principale source de touristes étrangers aux États-Unis, selon la US Travel Association. Nous comptons sur des clients fidèles de Windsor, de Toronto, de Montréal qui, je l'espère, vont continuer à venir nous voir, dit Deborah Lee, entre les éditions rares de Mark Twain, Charles Dickens et Guy de Maupassant qui peuplent sa librairie. Mais nous ne pouvons pas leur en vouloir. Nous sommes plusieurs ici à ne pas aimer, nous non plus, ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Et comme plusieurs autres Américains rencontrés dans les derniers mois, elle se met alors à imaginer, au milieu de ses livres, une autre trajectoire pour son pays, une fiction dans laquelle le Canada viendrait finalement envahir les États-Unis en se faisant croire, pour sourire, que cette version gagnerait bien plus à devenir une réalité. C'était Une saison estivale américaine frappée par le rejet de Donald Trump, un texte de Fabien Deglise, paru le 7 juin 2025 dans Le Devoir.